Ce bassin s'appelle le bassin de la Piti. Pourquoi correspond-on à cette demi-déesse, à la Piti? Il faut aller plonger dans vos mémoires de la mythologie. C'est une demi-déesse qui avait la particularité de pouvoir prédire l'avenir, de faire des prophéties. Donc elle est sur son piédestal et elle semble indiquer à ces messieurs les abonnés d'emprunter cet escalier pour rejoindre eh bien, l'entrée principale et le tout parfait. La particularité de cette sculpture, c'est qu'elle a été réalisée par une femme. Je le souligne parce que, rappelez-vous, on est au 19e siècle et les femmes à cette époque ont certes le droit d'étudier à l'école des beaux-arts, mais n'ont pas encore le droit d'exposer leurs œuvres dans les salons académiques, les salons officiels. On ne peut pas les vendre et on ne peut pas donc en vivre. La duchesse Castiglione Colonna, elle, va devenir veuve à l'âge de 20 ans seulement, après 8 mois de mariage. Et donc, elle veut véritablement vivre de sa passion, qui est la sculpture. Tout simplement, elle va emprunter un nom masculin. C'est sous le nom de Marcello qu'elle va exposer et qu'elle va finir par vendre cette magnifique sculpture à Charles Garnier, qui avait prévu à la base une sculpture de Orphée, hein, ce poète lyrique, et qui va la remplacer par cette magnifique Piti. Ils rebaptisent complètement le bassin de la Piti. La composition est extrêmement moderne avec ces deux obliques et puis ce travail au niveau des drapés, des plis, des cheveux. On peut imaginer ces messieurs les abonnés réajuster leur chapeau haute forme ou encore se cirer les moustaches. C'était l'époque des grandes moustaches. Plus elles étaient longues et travaillées, plus on était haut dans la classe sociale. Donc on se cirait les moustaches pour venir à l'opéra. Ici, il faut savoir qu'au 19e siècle, en France, on était incapable de faire des mosaïques. On avait complètement perdu la technique depuis l'Antiquité. Donc Charles Garnier va faire appel à une équipe d'Italiens, des Florentins, pour être précis. Et au nombre de 12, ils vont venir ici pour réaliser ce plafond en mosaïque. Et selon la technique des Florentins, on utilisait des pierres précieuses et des pierres semi-précieuses, des émaux, pour réaliser cette mosaïque. Donc toutes les parties dorées, c'est de l'or. Les parties bleues, turquoises, c'est ce qu'on appelle du lapis lazuli, une pierre qui coûtait plus cher que l'or. Ce plafond, c'est la partie qui a coûté la plus chère dans toute la construction de l'opéra. On parle de 10% du prix total, uniquement pour les mosaïques, puisque il a fallu payer ces artistes florentins pendant 10 ans. Et évidemment, les matériaux utilisés étaient excessivement chers. Garnier a voyagé pendant 4 ans pour aller choisir et récupérer ses marbres. Il a été évidemment en Italie, en Espagne, en Europe de l'Est, mais également plus au nord jusqu'en Écosse et en Finlande pour aller ramener des marbres extrêmement précieux. Cet escalier fait 30 mètres de haut et il est éclairé par ces magnifiques torchères qui étaient alimentées au gaz. Je vous le rappelle, je vais vous montrer en montant les anciens tuyaux de gaz. Derrière la façade principale se trouve évidemment la place de l'Opéra, l'avenue de l'Opéra qui mène au Louvre. El Richelieu, au Louvre, c'était les appartements de Napoléon III. Il habitait là-bas lorsqu'il décide, à la suite d'un attentat raté par les frères Orsini. Beaucoup de gens souhaitaient la mort du couple impérial. Il avait très très peur pour sa sécurité. À ce moment-là, il décide d'écrire un nouveau décret. Il y a vraiment une relation de cause à effet entre cet attentat et ce nouveau décret, puisque ça a été rédigé le lendemain. Il ordonne d'utilité publique deux choses. La première, de reconstruire la ville de Paris pour en faire une ville plus sûre, plus lumineuse, plus moderne. Avant, il faut s'imaginer que Paris était vraiment constitué de petites rues étroites, sans pavés au sol, mais avec de la boue, des petites maisons en bois. C'était un véritable coupe-gorge. Une ville très insalubre, très dangereuse. Napoléon III et son architecte, le baron Haussmann, décident de reconstruire la ville de Paris. C'est là qu'ils dessinent cette grande avenue de l'Opéra et qu'ils ordonnent, bien d'utilité publique, de construire le nouvel Opéra de Paris ici, à l'emplacement des anciennes murailles qui entouraient Paris. Pour l'Opéra, tous les architectes, donc il y en a 71 en tout, qui vont participer à ce concours. Ils vont envoyer leurs plans et les signatures seront cachées. Les plans sont numérotés et après c'est un jury qui est composé de membres de la famille impériale, de grands professeurs d'architecture, quelques grands artistes qui vont voter. Et à l'unanimité, c'est le projet de Charles Garnier qui remporte ce concours à la surprise générale, puisque Charles Garnier n'est absolument pas connu. La bonne raison, c'est qu'il est tout jeune, il sort tout juste de l'école d'architecture qu'il a réalisée en Italie. Il a encore presque rien construit. Et c'est pourtant lui qui va remporter ce concours face à des architectes de renom, hein, tels que Viollet-le-Duc ou encore même Haussmann. Pourquoi Garnier, si jeune, a remporté ce concours haut la main? La réponse, elle est tout simplement devant nous, c'est cet escalier monumental. Garnier était l'un des rares à avoir bien compris le rôle, la fonction de cet opéra. C'est-à-dire qu'on ne venait pas seulement à l'opéra pour y voir un ballet ou écouter un opéra, on venait pour être vu et pour faire partie de cette société privilégiée qui se retrouvait à l'opéra. Par exemple, les abonnés au nombre de 800 venaient jusqu'à 3 fois par semaine. Les lundis, les mercredis, les vendredis, 3 fois par semaine, c'est beaucoup. Surtout qu'il n'y avait pas forcément toutes les semaines 3 spectacles différents. Donc on venait voir le même spectacle. Les lundis, c'était les soirées des épouses. Les mercredis, généralement, on emmenait sa fille. C'était l'endroit idéal pour trouver le gendre parfait. Et les vendredis, c'était les grandes soirées qui commençaient assez tôt, qui finissaient très, très tard. On y venait pour se montrer. Les entr'actes étaient souvent plus longs que le spectacle, jusqu'à 2h30 d'entr'acte. Et on venait danser à l'opéra. Je vous montrerai la salle de bal qui est somptueusement décorée dans la galerie du grand foyer. Et donc cet escalier a été conçu par Garnier comme étant un théâtre mondain. C'est-à-dire, si vous regardez bien, il y a une petite estrade au milieu où les gens pouvaient donc se montrer. Et regardez comme il dispose les balcons tout autour. On dirait vraiment des loges, comme dans un amphithéâtre. C'est un théâtre dans un théâtre. Et la moitié de la surface de l'opéra, c'est uniquement des espaces dits de réception, c'est-à-dire qu'on va utiliser avant le spectacle, pendant les entr'actes et après le spectacle.